Depuis quelques dimanches, nous parlons du ciel, nous pensons au ciel, et ça nous fait du bien. Mais à ce sujet, je me souviens toujours d'une conversation que j'ai eue avec une voisine il y a quelques années de cela. Ma voisine se plaignait de tous les maux de la société. Elle travaillait d'ailleurs chez Air France, si vous pouvez vous imaginer un peu les plaintes et l'attitude qu'elle manifestait. Un peu le même qui perdure aujourd'hui. Mais elle se plaignait de tous les maux de la société et cela tout le temps. Alors, une fois, j'ai pu parler de ma foi et de l'espérance et même fait le geste vers le ciel. J'ai dit, mais oui, bah, c'est comme ça, mais nous avons aussi un jour une espérance arrangée, réglée. Et sa réponse m'a toujours frappé. Elle a dit oui, mais c'est trop facile ça. Vous les chrétiens, ça se passe toujours là-haut. Mais moi je veux des solutions ici-bas. Je veux du concret. Qu'est-ce que vous proposez pour les problèmes de notre monde? Alors, c'est vrai, est-ce vrai que de penser au ciel, c'est une espèce d'échappatoire qui nous déconnecte avec la réalité? Est-ce que les chrétiens ont toujours la tête en l'air et ne sont d'aucune utilité ici-bas? C'est vrai que quand Jésus est monté au ciel, les disciples étaient là en train de regarder le ciel comme ça, et l'ange leur a presque sur un temps de reproche, mais pourquoi regardez-vous au ciel? Il va vous revenir maintenant, mettez-vous à l'œuvre. Donc il y a une manière de regarder au ciel qui n'est peut-être pas bonne, mais nous voulons trouver la manière qui est bonne de penser au ciel. C'est C.S. Lewis qui dit « Ceux qui ont fait le plus du bien ici-bas sont ceux qui ont le plus pensé à là-haut. Ceux qui ont fait le plus de bien ici-bas, c'est ceux qui ont pensé le plus au ciel. » Alors, comment il peut dire ça? Eh bien, le passage que nous avons lu ce matin décrit ce que nous, les chrétiens, appelons le ciel, l'état éternel, ce nouveau monde, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et nous découvrons ici qu'un jour, le ciel et la terre vont être réconciliés. Effectivement, la Bible n'a jamais voulu trop déconnecter le ciel et la terre. Tout fait partie de l'univers de Dieu, du sphère de Dieu où Dieu veut règne. Et Jean décrit dans cette scène finale de la Bible le moment où il y aura une restauration parfaite des cieux et de la terre. Et notre destinée, la destinée de la création de Dieu, c'est le ciel sur la terre en quelque sorte. Et pour nous, de savoir à quoi ressemble un monde parfait et de savoir que c'est vraiment notre destinée, eh bien ça nous aide à vivre maintenant. Ni trop optimiste dans les solutions humaines qu'on propose pour régler les problèmes de ce monde, ni trop pessimiste, puisqu'on sait que Dieu va intervenir, il va transformer les choses. Alors, on a vraiment de belles images ici dans Apocalypse 21 et 22. Quand quelqu'un vous dit, maintenant, après ces messages sur le ciel, quand quelqu'un vous dit, on ne peut même pas imaginer le ciel, ce que ça sera, vous pouvez maintenant répondre, mais si, quand même, un peu, parce que la Bible nous en parle. La Bible nous donne des images et nous appelle à imaginer, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la parole, la Bible nous appelle. C'est même une exhortation qu'on a vue, que la Bible nous lance, de penser au ciel, d'imaginer le ciel, de réfléchir à ces choses. Alors, nous avons des belles images dans ce texte que nous allons creuser un peu ce matin. Nous allons voir tout d'abord la ville et son royaume. Ensuite, nous verrons le fleuve et son arbre. Et enfin, nous verrons l'agneau et son trône. Ce sont des images dominantes pour nous aider à comprendre le ciel dans ce texte. La ville et son royaume, le fleuve et son arbre, et l'agneau et son trône. Et à force de méditer ces choses, vous allez voir que ça nous aide à vivre ici, maintenant. Parlons tout d'abord de la ville et son royaume. C'est l'image dominante de notre passage, l'image d'une ville, la nouvelle ville de Jérusalem. En verset 9, chapitre 21, L'ange dit à Jean, viens, je te montre l'épouse de l'agneau. Et dans la Bible, l'épouse de l'agneau, l'épouse de Jésus-Christ, c'est une manière de parler de son peuple, de l'Église, des rachetés. Et donc l'ange dit à Jean, viens, je te montre l'épouse de l'agneau, et puis l'amène sur une montagne, et ce que Jean voit, c'est pas une femme comme ça, mais il voit une ville. Il voit une ville qui descend du ciel et qui se pose sur terre en quelque sorte. Et cette ville, c'est la Nouvelle Jérusalem. Cette ville, c'est la demeure du peuple de Dieu, la demeure de tous ces rachetés. Et probablement le fait qu'il y a les 12 noms, les 12 tribus, et aussi les 12 apôtres, nous rappellent que le peuple de Dieu, c'est les croyants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, maintenant réunis ensemble dans la demeure de Dieu, dans l'endroit où Dieu veut que nous vivions. Et pour parler du peuple de Dieu, on parle de la ville, la Nouvelle Jérusalem. Donc par extension, cette ville représente tout le peuple de Dieu. Et même nous avons l'habitude de parler comme ça. On dit parfois, vous entendez aux infos, Paris a annoncé ce matin qu'elle enverra de l'aide humanitaire en Irak. Paris a annoncé ce matin, c'est pas les murs de Paris qui ont parlé, mais Paris, on parle de Paris pour parler de tout le gouvernement français, tout le peuple français. Donc quand on parle de la ville, la Nouvelle Jérusalem, par extension, par image aussi, on parle de tout le peuple de Dieu, cette épouse de l'agneau. Mais quand nous lisons ces versets qui décrivent l'habitation éternelle du ciel, cette ville nous est présentée comme la capitale du royaume éternel de Dieu, la capitale des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Effectivement, on arrive ici à la fin de la Bible et on va retrouver plein de thèmes et des idées qui parcourent toute la Bible, des fils conducteurs de la Bible qui vont se retrouver ici, et notamment le royaume de Dieu, la ville de Jérusalem. On a lu toute la Bible jusque-là, on connaît ces thèmes, et maintenant on va trouver leur culmination. Effectivement, dans ce passage, il y a un certain nombre de références au prophète Ésaïe qui annonçait, lui, justement, le royaume éternel de Dieu, avec comme capitale Jérusalem. Certaines de ces prophéties qu'il a annoncées, Ésaïe, vont certainement se réaliser pendant le millénium, ces 1000 ans que dont Jean parle dans le chapitre précédent, mais certains noms vont bien au-delà puisqu'on parle d'un royaume éternel. Et ici, on décrit justement un royaume éternel avec son capitale, puisque c'est un royaume, puisque à la capitale, il y a un trône, il y a des serviteurs qui règnent. Tout ça. Donc, la ville et son royaume, l'image qui domine ce chapitre, pour nous expliquer ce que c'est que le ciel. Et ça, c'est fort. Pensez à cela. Les images que la Bible nous donne pour comprendre l'état éternel, le ciel, c'est une ville, un royaume, un pays, une nouvelle terre. Et quand vous creusez ces images, vous vous rendez compte qu'aucune de ces images n'évoque une vie solitaire, contemplative, chimère sur un nuage. Au contraire. C'est vrai de dire que nous allons monter au ciel, mais c'est tout aussi vrai de dire que le ciel va descendre sur terre et réconcilier le tout ensemble autour de Dieu, ce qui compte surtout pour nous, être dans la présence de Dieu. Mais nous apprenons ici que le paradis sera une métropole. Métropole signifie ville-mère. Jérusalem, c'est la ville-mère par excellence dans la Bible, même plusieurs fois, c'est notre mère à tous. Donc la ville-mère, le métropole par excellence, c'est Jérusalem. Alors aujourd'hui, c'est vrai, quand on vous dit le paradis, ce serait habiter une grande ville, là vous dites non merci. Aujourd'hui, quand on pense à la grande ville, aux métropoles, on se dit, oulala, j'ai pas envie d'y aller là. Justement, pour moi, le paradis, c'est tout le contraire. Le paradis, c'est cette image qu'on a vue sur les cartes postales, bien sûr, c'est une plage solitaire, c'est-à-dire il n'y a personne, ça c'est bien, et puis du sable blanc, la mer et le soleil. c'est notre conception parfois du paradis. Mais ici, on découvre que le paradis, c'est tout le contraire. Premièrement, il y a beaucoup de monde, puisqu'il y a tous les croyants de tous les âges qui sont réunis dans cette ville. Donc, il y a beaucoup de monde. Jean va aussi préciser qu'il n'y a ni mer, ni soleil. Donc, la carte postale, là, ils ont tout faux. Il n'y a pas tout ça. Et c'est vrai que dans notre conception, parfois, on vit les problèmes de la grande ville, et donc on rêve de changer, de sortir. Les Parisiens, ils font leurs vacances pour eux, ils partent à la plage, et après ils se retrouvent avec tout le monde à la plage, et c'est les mêmes problèmes, et c'est même pas là, c'est pas le paradis. Mais imaginons mais dites-vous que bien au fond de vous-même, le paradis ne serait pas habité, une ville déserte, même si vous étiez tout seul sur cette carte postale, pendant les premières 10 minutes, ce serait bien, vous vous baignez peut-être, mais après vous commencez à vous ennuyer. Donc passer l'éternité sur cette carte postale, au fond, avouez que ce n'est pas la destinée que vous voulez. Au contraire, nous avons été créés pour vivre en relation avec les autres. Et cette ville, c'est magnifique, nous allons habiter ensemble avec le peuple de Dieu, Dieu racheté, dans une ville, dans une communauté, dans une métropole parfaite. Jérusalem veut dire paix, ville de paix. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Mais le comble, ce qui est fort, c'est qu'un jour, elle va parfaitement incarner son nom, notamment cette nouvelle ville, qui représente encore nous, puisque nous allons être... nous sommes... la paix va régner. Elle va parfaitement incarner son nom, et nous avons ces détails que ses portes sont toujours ouvertes. Ça signifie justement que dans le monde, dans ce nouveau monde, il n'y a aucun conflit, aucune guerre, aucune insécurité. Parce qu'à l'époque, les villes, les murailles existaient pour repousser les attaques, il fallait les fermer. Ici, les portes sont toujours ouvertes, ce qui signifie un paix parfait, une possibilité de circuler, de d'échanger, de se déplacer parfait. Non seulement ça, il y a une paix parfaite au sein de cette ville, mais on dit, verset 27, qu'il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et en fait, ce passage décrit la civilisation, c'est ce que veut dire le mot civilisation, la racine c'est du latin de ville. Ce passage décrit la civilisation, l'humanité, lorsqu'elle va atteindre son potentiel glorieux, racheté. Et on peut imaginer la productivité, l'efficacité dans un monde sans mensonge, sans jalousie, sans avarice, sans insécurité, sans corruption, sans syndicat, sans grève, sans pollution, sans guerre, sans limitation physique, sans maladie, sans paresse, sans virus, que ce soit ordinateur ou biologique, sans bouchon sur la rocade, sans aucun collègue désagréable. Ce monde-là, si vous pouviez partir au travail dans ce monde-là, vous le feriez volontiers. Vous préférez cette vie-là que la vie sur la plage, sur la carte postale. Avouez que c'est mille fois mieux que d'habiter dans cette ville que passer l'éternité tout seul sur une île déserte ou sur un nuage qui flotte dans... Alors c'est vrai qu'on dit souvent, je vais me reposer au ciel. Et c'est vrai, quel repos céleste, nous avons un repos qui nous attend. Mais au ciel, nous n'allons pas chômer. Toutes nos activités seront reposantes, mais nous serons très productifs en tant que des citoyens, des serviteurs qui vont servir et régner dans ce nouveau monde, dans cette ville. Aujourd'hui, le travail est affecté par la chute. Donc il y a des ronces et des épines, il y a des collègues désagréables, il y a vous-même qui parfois ne produisez pas autant que vous pouvez à cause d'une maladie ou d'une faiblesse. Mais ici on décrit un monde, une civilisation, une culture où il n'y a pas les effets de la chute et où le travail devient un plaisir, où nous allons servir Dieu parfaitement et produire les choses à sa gloire. Le verset dit d'ailleurs que ses serviteurs le serviront et régneront au siècle des siècles. Alors, régner sur un nuage où il n'y a rien, c'est pas intéressant. Mais vous allez régner sur quelque chose, vous allez régner dans cette nouvelle terre. Alors, c'est quoi faire? Je ne sais pas trop, mais vous allez certainement administrer, produire, gouverner. On pense un peu à Adam. Quand lui est arrivé dans son paradis, son jardin d'Éden, la première chose qu'il a fait, c'était nommer tous les animaux. Ça c'est déjà, j'aimerais bien avoir son intelligence, lui, pour, à quelques jours de vie, il peut nommer tous les animaux de la création, et ça, avant même d'avoir fait Paul Sabatier et tout ça. Vous aurez, voilà, plus qu'Adam même, et vous allez pouvoir produire dans cette ville, puisque ça va être l'humanité, la civilisation, un royaume parfait. On a d'autres indices de cette vie, de ville et son royaume. Le verset dit que les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre apporteront leur gloire. Il faut savoir que le mot « nation » dans le Nouveau Testament, souvent signifie « ethnie ». Donc, ce n'est pas tant les nations géopolitiques dont nous avons en tête, mais c'est les cultures, les ethnies, les tribus. Aujourd'hui, ce qui freine le progrès de la civilisation, ce sont les racismes, les barrières de langue et de culture, les frontières. Mais au ciel, tout sera changé. Le ciel sera enrichi par la diversité et la richesse des ethnies et des cultures. C'est-à-dire la diversité culturelle sera préservée dans le ciel. Mais ce sera un atout, non pas un frein ou une difficulté. Et c'est beau de penser à chaque culture rachetée, ces ethnies qui sont là, hein, qui apportent leur gloire à Jésus-Christ dans cette ville. Vous savez, quand on regarde l'histoire, quand on regarde les cultures, on est conscient, chaque culture a son âge de gloire, chaque culture a ses spécialités, ses richesses, qu'on aime bien peut-être découvrir en tourisme ou autre. Alors aujourd'hui, ici-bas, cette gloire est passagère, les cultures, les royaumes passent, cette gloire est passagère, ou bien elle est mal exploitée par les hommes, et donc on sait bien qu'il y a des pays qui ont des richesses énormes, mais à cause de l'homme, de son mauvais cœur, ils ne sont pas exploités comme ils pourraient l'être. Ici, tout ça sera changé, et les cultures, les ethnies vont apporter leur gloire pour rendre ce monde merveilleux. Alors ce verset dit d'ailleurs, les rois de la terre apporteront leur gloire. Je me suis toujours pensé, c'est qui ces rois de la terre, hein? Je pense que les rois de la terre, c'est vous. Hein? Vous allez régner, vous allez partager la royauté avec Jésus-Christ. La promesse, c'est de régner avec lui. Donc, les nations, on ne sait pas comment Dieu va organiser son ciel, quelles seront ses hiérarchies, ses récompenses qu'il va donner, mais un jour, Jésus, dans une parabole, en tout cas, il a dit, celui qui a été fidèle, bon, je lui donne l'administration de 5 villes. Alors, est-ce qu'il va vous donner à administrer 5 villes comme New York? Je ne sais pas, mais c'est peut-être votre destinée. Mais on a un aperçu dans l'Ancien Testament de ce que ça peut donner. À un moment, la reine de Séba, la reine d'Éthiopie, vient rendre visite à Salomon. Et elle, dans sa visite, elle apporte toutes les spécialités, tout le savoir-faire, toutes les richesses de sa culture, et elle apporte en cadeau à Salomon pour rendre hommage à ce roi, fils de David. Et Salomon, à son tour, lui renvoie avec tous les siens, toute une richesse des siens. Et c'est une belle image de ce que les nations, les païens, la reine de Séba n'était pas juive, elle vient de loin, donc tout ça vient de loin pour rendre hommage au fils de David, Salomon, et c'est l'image de ce que les nations vont apporter leur gloire à Jésus-Christ, en quelque sorte. Il y a quelque temps, j'étais au consulat américain à Marseille, et j'attendais un peu, et devant la porte, il y avait des orangers des jardins de Versailles que Hollande a offert à Obama. Bon, des orangers du jardin de Versailles. on va dire, c'est une petite gloire de la France qu'on va pouvoir donner à un autre roi. Mais peut-être plus fort encore comme geste, c'était le cadeau que la France a fait aux États-Unis, notamment la Statue de Liberté. Et là, bon, non seulement il y a avoir le savoir-faire sculpture, mais la Statue de Liberté, c'était une célébration de la liberté. Les Français sont fiers d'avoir inventé les droits de l'homme, n'est-ce pas? Et c'était un geste pour voilà, c'est apporter leur gloire en quelque sorte et enrichir une autre culture. Où je pense aussi à la capitale aux États-Unis, le Japon un jour a fait don de 3000 vins cerisiers à Washington, et maintenant tous les cartes postales de Washington, notamment au printemps, c'est magnifique, les cerisiers quand ils sont en fleurs au printemps. De tels dons, vous voyez bien, ça n'appauvrit ni pas la culture qui donne, c'est une richesse pour la culture qui donne, et ça a une richesse pour la culture qui reçoit, parce que ça embellit le monde en quelque sorte. Et nous allons vivre ça, mais à l'échelle grandiose dans cette ville et son royaume. Et cette gloire, cette richesse, vous allez la produire, vous allez la gérer, vous allez la pour, vous allez le mettre à faire honorer Jésus-Christ. Pourquoi mes enfants veulent toujours, pour cadeau d'anniversaire et cadeau de Noël, ils veulent toujours, en tout cas mes garçons veulent toujours, des Playmobil, de châteaux, de chevaliers, de grands voiliers, de bannières, de soldats. Voilà ce qu'ils demandent, et ils aiment bien jouer avec ces choses. Ils ne me demandent pas, je veux une réplique de la mairie de Castelginest. Non. Je veux une réplique d'un château grandiose avec ce grand voilier et puis ils vivent ces... Je pense qu'eux, ils sont sensibles à cette gloire, cette grandeur qu'on peut associer à une culture à telle époque. Bien sûr, on n'aimerait pas, je pense, vraiment vivre peut-être à l'époque médiévale parce qu'il y a eu des conforts, des améliorations depuis, mais on reconnaît une certaine gloire qu'on n'a pas aujourd'hui. Et tout ça sera apporté à Jésus-Christ. Et les bonheurs et les joies des enfants sont révélateurs de ce que nous recherchons tous. Il y a le refrain du chant thème du film Choriste qui dit « Bonheur enfantin, trop vite oublié, effacé, une lumière dorée, sans fin, brille sans fin, tout au bout du chemin. Bonheur enfantin, trop vite oublié, effacé, mais une lumière dorée, brille sans fin tout au bout du chemin. » C'est un chant comme ça, mais en réalité, il n'y a que la vision chrétienne, la vision biblique, qui vous dit un jour, vous allez arriver à cette lumière sans fin. Vous allez retrouver ces bonheurs enfantins oubliés, effacés. Moi, je n'ai plus le droit de jouer avec les Playmobil Château. Ça ne se fait pas. Mais au fond de nous, on aspire à cette gloire et nous l'aurons. Un jour dans la ville et son royaume. Belle image. Ensuite, le fleuve et son arbre. Au milieu de cette ville, au milieu de cette place, maintenant on passe à d'autres images, d'autres éléments pour nous décrire le ciel. Il y a ce fleuve d'eau de la vie, cet arbre de vie. Alors j'espère que tout cela vous fait penser à quelque chose, un arbre de vie au milieu, pas du jardin cette fois-ci, mais au milieu de la place de la ville. Évidemment, c'est des renvois au jardin d'Éden. Il y avait l'arbre de vie, il y avait des fleuves même. Bien sûr, quand on lit ces versets, quand on creuse un peu, c'est un peu difficile à imaginer. Parce qu'on nous dit qu'un fleuve sorte du trône. Normalement, des fleuves ne sortent pas des trônes. Ensuite, on dit qu'un arbre pousse sur les deux bords. En général, un arbre ne pousse pas sur deux bords. Ensuite, on dit que l'arbre produit du fruit chaque mois. Normalement, les arbres ne produisent pas des fruits chaque mois, surtout quand il n'y a plus de lune et de soleil. Et puis, c'est des fruits, 12 fruits. Normalement, un arbre porte un seul fruit. Ici, il y a 12 fruits. Donc là, effectivement, on dépasse un peu ce que nous, on peut saisir. Certainement, il y a une réalité matérielle, physique dans ces choses, et aussi des réalités symboliques aussi. Mais en tout cas, ce fleuve d'eau de la vie, nous savons que l'apôtre Jean a souvent pris cette image pour parler du Saint-Esprit dans ses évangiles. Et ici, on parle du Dieu et de l'agneau, son trône. On peut se bien poser où est le troisième membre de la Trinité. On est habitué à parler de Dieu le Père, Dieu le Fils, l'agneau, et Dieu le Saint-Esprit. Il est où le Saint-Esprit ? Ce fleuve pourrait très bien être une image, une émanation du Saint-Esprit. Ça correspond à la manière que la Bible présente le Saint-Esprit. Il n'a pas forcément il est tout à fait Dieu, le troisième membre de la Trinité, mais il ne se met pas en avant et il ne nous appelle pas à se prosterner devant lui, à prier, mais il est là pour vivifier notre louange envers Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc ce fleuve qui sort, c'est un fleuve de vie. Jean a souvent parlé du fleuve de vie étant le Saint-Esprit. En tout cas, c'est beau, ce fleuve abreuve cet arbre, et cet arbre pousse des fruits et des feuilles, et ces feuilles guérissent les nations. Je pense que tout ça, c'est une image de la malédiction qu'on a vue arriver au Jardin d'Éden. Cette malédiction est complètement renversée, complètement enlevée. La malédiction, ça introduit la mort et la corruption dans ce monde. Mais ce fleuve et cet arbre produisent la vie. C'est la vie qui jaillit, la vie et la guérison. Donc la mort et la corruption sont remplacées maintenant par la vie et la guérison. Et puis c'est quand même beau de penser à ces images, le fleuve, l'arbre, montagne. D'ailleurs, on a lu tous ces minéraux, les pierres précieuses, l'or. Tout ça, c'est vrai, c'est des choses, on va dire, terrestres, physiques. Arbres, fleuves, montagnes, pierres précieuses. Mais on les trouve au ciel, puisque la Bible dit que la création sera libérée. Non seulement nous, les enfants de Dieu, mais toute la création sera libérée. Quelqu'un pourrait se promener dans les Pyrénées, constater la beauté des Pyrénées et dire, ce serait quand même dommage que Dieu détruise tout ça. Mais c'est normal de dire ça, parce que c'est la création de Dieu, et Dieu, c'est vrai que cette terre est réservée au feu, mais ce ne serait pas une destruction ou un anéantissement, c'est une restauration, une recréation, et toute la beauté que Dieu a créée dans ce monde, il va la libérer. Et peut-être un jour, vous allez, dans ce nouveau monde, vous allez voir... les Pyrénées refaites à neuf, libérées de la corruption, et vous allez dire, ah, c'est ça, c'est les véritables Pyrénées. Ça m'intéresse encore plus. Vous allez peut-être rencontrer un arbre et dire, ah, d'accord, c'est ça un arbre. J'ai toujours pensé qu'un arbre était comme ça, mais ça c'était un arbre corrompu. C'est un arbre déchu, c'est un arbre de ce monde ici-bas. La création. Là, on a hier les échanges des alliances. Donc, j'ai pensé à ça. Il y a de l'or. Et donc ici dans le texte, on utilise l'or pour décrire un peu le ciel. Et souvent, je m'étais dit, voilà, Dieu prend quelque chose que nous connaissons, l'or, le vrai or, pour nous parler de, pour nous aider à comprendre là-haut. Mais peut-être c'est l'inverse. Le vrai or, c'est là-haut. Et ici, c'est que c'est un pâle reflet de l'or. Parce qu'on parle de l'or pur. Ici, ça, c'est pas de l'or pur. L'or pur, apparemment, c'est transparent. Le mien, c'est pas transparent. Donc, peut-être il y a un problème. Mais le vrai, un jour, on va découvrir le vrai, l'affranchi. Et c'est merveilleux. Peut-être c'est encore C.S. Lewis qui a bien capté. Dans ses livres de Narnia, notamment, il y a un qui s'intitule Le voyage du passeur de l'aurore. Et il voyage sur la mer dans l'histoire, et vers la fin de l'histoire, on voyage sur ce navire, ils arrivent près du pays, on va dire le pays éternel, le pays céleste. Et jusque-là, ils voyageaient sur la mer, c'était de l'eau salée, et un moment, en s'approchant du pays céleste, un peu par accident, ils goûtent l'eau et ils constatent que l'eau est douce. Je vous lis. Donc à ce moment, le roi prit le seau à deux mains, il le leva jusqu'à ses lèvres, avala une gorgée, puis but à longs traits et redressa la tête. Son visage était transformé. Non seulement ses yeux, mais tout en lui semblait avoir plus d'éclat. « Oui, dit-il, elle est douce. C'est de l'eau véritable. » Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça, l'eau véritable ? Ben, ça ressemble à de la lumière plus qu'à quoi que ce soit d'autre. Ah oui, voilà ce que c'est, c'est de la lumière buvable. Vous allez dire de telles choses quand vous arrivez dans ce nouveau monde. Vous allez dire, ah, ça c'est du vrai, oh d'accord, c'est... Oui, la meilleure façon d'écrire ça, c'est lumière buvable. Vous allez rencontrer les vrais. Et c'est vrai pour les gens aussi, hein. Ça c'est beau, parce que nous allons être infusés par cette vie de Dieu, nous allons boire de cette eau, nous allons goûter de ces feuilles et ces fruits, et nous serons transformés. Donc non seulement la création sera affranchie, mais les enfants de Dieu seront affranchis. Donc pensez à votre voisin, assis à côté de vous aujourd'hui. C'est pas le vrai, s'il est habité par le Saint-Esprit, un jour, s'il est enfant de Dieu aujourd'hui, vous allez un jour rencontrer le vrai. Nous avons une personne véritable. Oui, la personne véritable est peut-être cachée par la chair, par une vieillesse, par une maladie, par mauvais caractère, par. Bon, arrêtons là, mais. Vous allez rencontrer la vraie personne et formidable. Donc, le fleuve est son âme qui vivifie toute la création, tout ce monde nouveau, toute cette ville, ce royaume. C'est la destinée à laquelle notre monde aspire encore aujourd'hui. Hein, j'ai toujours pensé à l'écologie. C'est un peu la nouvelle religion du monde occidental, en tout cas. Et l'écologie, c'est deux symboles, c'est toujours une goutte d'eau et une feuille ou un arbre, bleu et vert, voilà. La chose, c'est qu'ils n'ont aucune solution pour guérir la corruption du cœur humain qui souvent cause des problèmes écologiques. Et souvent le comble, c'est qu'ils militent pour une meilleure planète, mais à côté de ça, ils militent pour ce que on considère, la Bible considère, les abominations morales, telles l'avortement, le mariage homosexuel et le rejet général de Dieu. Et ils ne voient pas le lien entre l'état de la planète et l'état du cœur de l'homme, qui est en rébellion contre Dieu. Et tant que l'écologie n'est pas alimentée par la vie du Créateur, par le Saint-Esprit, par la vraie source de vie, ce projet ne marchera pas. Mais en tant que chrétien, nous avons cette espérance qu'elle marchera. Et ça nous permet de vivre autrement ici-bas. Par exemple, on a déjà vu la semaine dernière qu'on aura un nouveau corps. Ce corps sera, oui, détruit en quelque sorte, va mourir, reprendre la poussière, mais un jour on aura un nouveau corps. Ça veut dire que Dieu n'est pas contre le corps en soi, il est contre le péché, mais pas le corps. Et même si nous savons que ce corps sera détruit, le fait que nous aurons un nouveau corps un jour, ça fait que nous devons quand même soigner ce corps présent. Et dans l'éthique chrétienne, détruire son corps, c'est considéré un péché, dans diverses formes que les hommes cherchent à détruire le corps. Même si ce corps est voué en quelque sorte à la poussière, Dieu ne veut pas qu'on la détruise parce qu'un jour il va nous donner un nouveau corps. C'est la même chose un peu pour la planète. La planète, création de Dieu, oui, elle va passer par le jugement, le feu, comme dit Pierre, mais il y a une restauration, une recréation. Et c'est parce que Dieu a en tête cette création libérée, cette nouvelle planète, que déjà aujourd'hui nous ne détruisons pas la planète qui nous a confiée. Donc, la ville et son royaume, le fleuve et son arbre, l'agneau et son trône. C'est là où le graphiste de l'église jette son éponge. Parce que c'est impossible et c'est voulu comme ça, je pense. Ici, nous avons une image très surprenante pour encore décrire le ciel. Au cœur, au centre de tout ça, il y a l'agneau sur le trône. Et c'est l'aspect le plus glorieux de cette ville, de ce monde. Cet agneau, bien sûr, c'est Jésus-Christ. Dans ce même livre, il était aussi appelé Lion. Mais le nom qu'on retient surtout dans le dernier livre de la Bible pour parler de Jésus-Christ, c'est l'agneau. Avant de parler plus de cet agneau-là, Jésus-Christ, peut-être un petit mot sur les animaux. Est-ce qu'il y aura des animaux au ciel? Si Dieu prend comme image principale de sa personne un animal, un agneau, on peut se dire au moins que Dieu n'est pas contre les animaux. Et que Dieu il les a créés avec une grande sagesse. Ésaïe 65 qui décrit les nouveaux cieux et la nouvelle terre, donc au-delà certainement du millénium. Ésaïe 65 dit « Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangeront de la paille. » Est-ce une image de la paix générale, le renversement de la malédiction? En partie oui, mais certainement plus. Les animaux pourraient très bien faire partie de la création, puisqu'il dit « La création entière sera libérée de sa corruption. » En tout cas, on prend des images pour parler de Jésus-Christ, l'agneau. Donc peut-être qu'il y aura bien des animaux au ciel. Revenons à Jésus-Christ. Pour nous, le ciel serait de voir cet agneau. Nous avons chanté tout à l'heure, nous ne lasserons pas de chanter gloire à l'agneau. On dit agneau parce que ça évoque tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous, tout son sacrifice, toute la manière qu'il a quitté son trône et il s'est fait petit, il s'est fait faible, il s'est fait fragile, il s'est fait sacrifice pour nous. Et ça serait le sujet de nos réflexions, le sujet de nos discussions, le sujet de nos louanges pour l'éternité au ciel. Et c'est pour ça qu'il est au centre de tout ici, l'agneau sur son trône. Et le verset dit que ses serviteurs verront sa face. Ça, c'est certainement la bénédiction la plus grande qu'on aura au ciel. On a parlé de la ville et son royaume, cette merveilleuse civilisation qui nous attend. On a parlé de l'arbre et le fleuve, cette vie. Mais c'est voir la face de Dieu, la face de Jésus-Christ qui fait que le paradis est le paradis. Je me souviens toujours d'une discussion avec un témoin de Jéhovah qu'on a eu ici. Ils ont présenté leur conception du monde nouveau. Ils aiment bien le monde nouveau, ils aiment bien la nouvelle terre. Et pour eux, c'est vraiment juste la nouvelle terre. Alors, beaucoup de débats, discussions, enfin, on leur a simplement demandé, mais est-ce que vous allez être avec Jésus-Christ? Est-ce que vous voulez être avec Jésus-Christ? La réponse m'a toujours surpris. Ah non, jamais de la vie. Ça, pour eux, c'était trop prétentieux. C'était là, c'est être avec Jésus, c'est réservé peut-être à une petite Éline. Mais nous, c'était une fausse humilité. Mais donc tout est faux dans leur système parce que le but c'est d'être avec Jésus-Christ. Et pour être avec Jésus-Christ, on nous donne cet arbre et ce fleuve et cette ville et ce royaume. Mais c'est pour être avec Jésus-Christ. Voir sa face. C'était la prière suprême de Moïse. Fais-moi voir ta face. Mais la réponse à cette époque, c'était « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et ici, faisant référence à ça, certainement, nous allons voir sa face. Mais c'est vrai que l'homme ne peut pas voir sa face et vivre. Voir sa face, c'est entraîne la mort pour nous, pécheurs que nous sommes. Mais c'est pour ça que Jésus est venu. Il a donné sa vie. C'est lui qui est mort. Il a été privé de la face de Dieu. Il a été plongé dans les ténèbres pour nous donner la possibilité de voir la face de Dieu et vivre. Et puis le verset de suite dit, et son nom sera sur leur front. Là aussi, ça nous... est-ce que ça vous dit quelque chose d'avoir son nom sur votre front en Côte d'Ivoire? Effectivement, on met un scotch sur le front aux écoles du dimanche pour repérer les prénoms. C'est pratique. Mais quelqu'un pourrait dire, je ne veux pas qu'on me colle une étiquette ou un tatouage sur mon front pour l'éternité. Mais il faut... C'est bien plus que ça, c'est un saut d'appartenance que d'appartenir à Jésus-Christ. Regardez d'ailleurs l'argent qu'on a dépensé pour porter une casquette qui a une marque d'un logo sur notre front, ou bien une équipe sportive, ça, on le fait, les jeunes le font, plus parce que ça leur donne un sentiment d'appartenance, d'être reçu par les autres, qu'autre chose. Et c'est un peu cette image, je pense. Son nom sera leur front, nous allons être accueillis, nous allons appartenir au roi de l'univers. Et puis le Seigneur les éclairera. Il y a au château de Versailles la galerie des glaces, avec ses énormes chandeliers au milieu. Et certainement à l'époque, encore une gloire de la culture française, certainement à l'époque avec toute la noblesse qui venait habiller somptueusement, les bijoux notamment, dans cette galerie, avec des glaces partout, de la lumière, ça devait être magnifique. Mais ce texte dit que un jour, vous serez, à la fois vous serez la noblesse, mais vous serez les glaces, vous allez refléter la lumière de Jésus-Christ, c'est lui la lumière, c'est lui le chandelier. On n'a pas besoin de chandelier, on n'a pas besoin de soleil parce qu'il y a lui. Donc lui, il va éclairer, il va rayonner dans ce monde merveilleux, cette ville merveilleuse. Et puis on a décrit toutes ces pierres précieuses. Imaginez ce qui se passe quand vous mettez la lumière là-dedans et que vous tous, vous êtes le reflet. Vous allez refléter sa gloire, vous serez les glaces, les miroirs. Et quand vous savez que c'est ça votre destinée, vous êtes libre ici-bas. Les séductions et les mensonges de ce monde ne vous attirent pas. Je termine avec cette citation de Luis encore, où il dit, il y a certainement des moments, je pense, où nous ne désirons pas le ciel comme il faudra. Mais je me demande plutôt si, au plus profond de nos cœurs, nous n'avons jamais désiré autre chose. Il y a certainement des moments où nous ne désirons pas le ciel. Mais je me demande plutôt si au fond de nos cœurs, nous n'avons jamais désiré autre chose. Tout ce que les gens désirent, ce qu'ils cherchent, c'est ce que Jean décrit dans Apocalypse 21 et 22. Bien sûr, le diable, le malin et le monde a su nous mentir pour dire « vous pouvez avoir ces choses autrement, ailleurs ». Et c'est ça notre grand crime, notre péché, c'était d'échanger toute cette gloire merveilleuse pour des choses qui ne remplissent pas. Mais tout ce que vous avez désiré, c'est là. Et Jean termine en disant, si vous avez soif, que venez, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau gratuitement. C'est un des mots le plus fort de ce texte. Gratuitement. Tout ce qu'on a décrit, gratuitement. Nulle autre religion, nulle autre philosophie dit que le paradis est gratuit. Tous disent qu'il faut le mériter, il faut être plus bien, plus fort, plus religieux, plus riche, plus beau que les autres, éventuellement vous accéder. Ici, on dit que cette eau de vie, cette source de vie, cet accès est offert gratuitement parce que Jésus-Christ a tout payer. C'est un beau message. Comment ne pas vouloir aller dans ce ciel, être avec ce Dieu? Que Dieu nous attire. À lui, prions. Seigneur, merci pour les images et l'aperçu que tu nous donnes de ta présence et de notre destinée. si nous avons placé notre foi dans cet agneau, si nos noms sont écrits dans son livre. Seigneur, merci parce qu'il a donné sa vie pour nous, il a laissé tout ça derrière lui, il a souffert tout le contraire pour nous donner l'accès à toi et à ta gloire. Nous voulons vivre tous les jours avec ces pensées en tête pour devenir des personnes utiles, meilleures, plus simples, plus pures, plus joyeuses, et ici-bas, plus courageuses. Seigneur, sachant que tout ça, c'est notre destinée. Tu nous l'as promis, ces paroles sont certaines et véritables. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.